très longue, au chapitre 14 de l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 14, et on va simplement lire du verset 17 au verset 20, un enseignement précieux de l'apôtre Paul. Romains 14, à partir du verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Amen. On va arrêter là notre lecture, si vous le voulez bien. Un enseignement précieux qui nous donne de comprendre, d'avoir une instruction, de comprendre comment fonctionne le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Nous sommes concitoyens des cieux, hein? Oui ou non, hein? Avant d'être arménien, je suis concitoyen du ciel. Alléluia. Je ne sais pas combien de nationalités il y a parmi nous ce soir, mais le plus important, ce ne sont pas nos origines raciales ou nationales, mais c'est que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu et nous sommes des concitoyens du royaume des cieux. Alléluia. Et de ce fait, eh bien, nous avons besoin de connaître comment fonctionne le royaume des cieux, quelles en sont les valeurs, quels en sont les principes, et la Bible nous explique comment ça fonctionne, le royaume des cieux. Il y a plusieurs systèmes, les hommes ont fabriqué plusieurs systèmes, hein. Il y a des systèmes politiques avec leur code, avec leurs valeurs. Il y a les systèmes religieux, la terre est pleine d'une vie religieuse, mais ça c'est les hommes, hein, qui ont conçu cela, et il y a donc des principes qui gouvernent le monde religieux. D'ailleurs Jésus a adressé des paroles très claires, très directes au monde religieux de son temps, dénonçant la fausseté, la superficialité, l'hypocrisie, en employant même des images vraiment fortes. Vous avez une drôle de manière de faire la vaisselle, leur disait Jésus, ça c'est ma version à moi. Vous nettoyez le bord de l'assiette, mais au milieu, vous acceptez de la rapine, du mensonge, le péché. Vous avez une drôle de manière de concevoir la maçonnerie, disait Jésus en substance. Parce que lorsque vous voyez un mur fissuré, au lieu de traiter la fissure en profondeur, vous mettez une couche de crépi, l'extérieur, et vous sauvez la face, mais vous n'allez pas au fond des choses. Ça, c'est le système religieux. Mais lorsque je découvre l'Évangile, lorsque le Seigneur se révèle à mon cœur, lorsque je me convertis à Christ, mon nom est inscrit sur son livre de vie et je suis concitoyen des cieux. Et ma vie, même si mes pieds sont sur terre encore quelque temps, ma vie est régie et doit être régie par les principes du royaume des cieux. Alors l'apôtre Paul nous explique ici un aspect du royaume des cieux. Le royaume des cieux, dit Paul, ce n'est pas le manger et le boire. En effet, tous les systèmes religieux font des fixations sur des choses comme le régime alimentaire, tu mangeras de ceci, tu ne mangeras pas de cela, parce que si tu manges de cela, ça va te rendre impur. Il y a plein de codes, de préceptes, tu ne toucheras pas, tu feras, tu ne feras pas. Ça, c'est le système religieux. Mais Paul va dire non, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et j'y reviendrai, Paul surenchérit en disant, celui qui sert Christ de cette manière, je comprends donc qu'il existe d'autres manières, mais ceux qui servent Christ de cette manière-là, eh bien, sont agréables à Dieu et approuvés des hommes. Ainsi donc, ça c'est la conclusion, la déduction, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Quelle richesse, hein ? Quelle richesse ! Voilà, donc le royaume des cieux se compose de trois valeurs irremplaçables, d'un prix inestimable, trois valeurs éternelles, indispensables, la justice, la paix et la joie rendue possible par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions eh bien, nous attarder quelques minutes sur chacune de ces trois valeurs, afin que nous puissions exceller dans ces domaines, progresser, évoluer, exceller. D'abord, c'est la justice. Bien entendu, il ne s'agit pas de la justice des hommes, parce que la Bible dit clairement que les hommes, sur un plan naturel, eh bien, sont profondément marqués d'iniquité et d'injustice. Il n'y a pas un seul, même à Aubagne, pas un seul qui soit juste. Pas même un seul. Ça en déçoit quelques-uns, peut-être, je ne sais pas, mais c'est la réalité, c'est le diagnostic du Dieu qui ne se trompe pas. Il n'y a pas un seul juste, et Dieu va continuer, et ça ne va pas dans l'amélioration, il va dire « le meilleur d'entre eux ». Peut-être avons-nous le privilège de l'avoir parmi nous, il est comme un buisson d'épines. Alors là, on se rassoit tous et on revêt de sentiments plus modestes. Hein. Ça, c'est le diagnostic de l'homme naturel en raison du péché. Voilà dans quel état il se retrouve. Donc, il n'est pas question de la justice des hommes. La justice des hommes, dit le Seigneur, est comme un vêtement souillé. Un vêtement souillé. Et c'est vrai que la société, quel que soit le régime politique, l'idéologie qui régente tel ou tel pays, la justice des hommes est un vêtement souillé, et se fier à cette valeur de la justice humaine nous conduira toujours à la désillusion. Hein. Il est question ici de la vraie justice. La justice de Dieu, la vraie justice, pure, parfaite, inconditionnelle, la même pour tous. Une justice qui s'impose par elle-même. Et je le faisais remarquer, seul le Saint-Esprit agissant dans nos vies peut nous faire connaître cette justice-là. L'Épître aux Romains, au chapitre 5, me dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, que le Seigneur soit béni. » Cette justice-là, elle est inaccessible à mes efforts. Je ne peux pas, par des étapes d'élévation personnelle, atteindre cette justice. Ceux qui ont initié la tour de Babel se sont rendus à l'évidence. L'homme ne peut pas monter, s'élever et atteindre cette justice, c'est impossible. Alors, Dieu, par l'Évangile, nous montre que c'est par la foi. Par la foi, dans le Sauveur qui nous donne, eh bien, je peux être purifié de mes péchés, purgé de ma dette, transformé viscéralement dans ma nature profonde et déclaré juste aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de bonheur qui égale celui que nous éprouvons lorsque Dieu lui-même nous déclare juste. Amen. Lorsque Dieu lui-même, à qui rien n'échappe, nous dit « Tes péchés sont enlevés. Les taches et les souillures ont disparu parce que lavé par le sang de mon fils Jésus, à mes yeux, tu es juste. » D'ailleurs, les disciples de Jésus, les croyants, sont parfois appelés dans le Nouveau Testament les justes. Et même dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question du juste ou des justes, c'est déjà une projection qui désigne les chrétiens. Lavés, purifiés, pardonnés, acquittés, délivrés, transformés, mais de nouveau, ils sont déclarés justes. Et le royaume des cieux commence par cette valeur-là. Mon frère, ma sœur, il est tellement précieux et important que nous puissions nous maintenir dans cet état de justice. Lorsque Dieu porte ses regards sur toi, sur moi-même, eh bien, que tout dans notre vie puisse correspondre à son cœur, à ses valeurs, que Dieu puisse se reconnaître, qu'il puisse trouver en toi, en moi, les caractéristiques de sa nature. Amen. On a des progrès à faire. On a beaucoup de progrès à faire. Nous les ferons par sa grâce. Et on l'a dit, et je le redis, nous y arriverons par le Saint-Esprit. Il nous a été donné pour nous aider, nous assister chaque seconde de chaque minute, chaque heure, chaque jour, année après année. Heureusement, l'assistance du Saint-Esprit va nous conduire, nous ramener, si nous nous en sommes écartés, sur les sentiers de la justice. Ce qui est juste aux yeux de Dieu doit être notre priorité. Un jour, Jean-Baptiste a vu arriver celui qu'il a reconnu et dont il a déclaré publiquement « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, Jésus vient vers Jean-Baptiste, et c'était au bord du Jourdain, et Jésus dit à Jean-Baptiste, « Baptise-moi ». Jean-Baptiste a eu une réaction que très probablement j'aurais eu moi-même. Il a dit, « Te baptiser, moi? Mais c'est moi qui ai besoin que tu me baptises !» Et Jésus de répondre, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et ça me fait réfléchir. Je réfléchis sur le pourquoi de la réaction de Jean-Baptiste, que l'on peut tout à fait comprendre, je le redis, j'aurais probablement eu la même réaction. Mais quand on va au fond des choses, on s'aperçoit que la réaction de Jean-Baptiste trouve ses sources dans le sentimental, dans l'affectif. Permettez que j'ouvre ici une courte parenthèse. Mon sentiment et nos positionnements inspirés par nos sentiments nous éloigneront souvent, pour ne pas dire toujours, de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est ce qui correspond à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Voyez, Jésus interroge ses disciples dans un autre contexte. Qui dit-on que je suis ? Alors, les uns disent que tu es Jean-Baptiste réincarné, et Esaïe, Jérémie, ou l'un des prophètes, et vous, qui dites-vous que je suis ? Et l'un d'entre eux, c'était un peu le leader du groupe, là, hein, Pierre, il s'exclame, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !»« Oh, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. » C'est merveilleux, hein ? Peu de temps après, dans la même journée, Jésus commence à expliquer à ses disciples qu'il va falloir, d'une manière imminente, qu'il soit saisi par les gardes romaines, qu'on le flagelle, qu'on le maltraite et qu'on le conduise au supplice de la crucifixion. Le même disciple, Pierre, en entendant cela, va réagir. À Dieu ne plaise. Ouais, il est spirituel, il a Dieu dans la bouche, hein. À Dieu ne plaise. Une pareille chose ne t'arrivera jamais. Et là, la réponse de Jésus. Moi, je veux mettre des gants, hein, parce que si j'utilisais le langage que Jésus a utilisé dans cette circonstance, vous me jetteriez dans le, je sais pas, dans un torrent à côté, hein. Arrière de moi, Satan. Car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et on réfléchit, mais qu'est-ce qui a poussé Pierre à cette exclamation qui a scandalisé le Seigneur Jésus ? C'est le sentiment. C'est le sentiment. Il ne pouvait pas concevoir que son maître, qu'il suivait quotidiennement, soit traité ainsi et connaisse un sort aussi ignoble parce qu'il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois » et les sentiments de Pierre vont réagir et lui faire prononcer des paroles qui ne correspondaient pas à la justice de Dieu, à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu. Si j'ai une parole de recommandations à nous formuler, je m'inclus dans ce conseil, ne nous fions pas aveuglément à nos sentiments et à ce que nos sentiments, dans leur réaction spontanée, vont nous inspirer en paroles ou en comportements. Non, cherchons la pensée de Dieu. Ça, c'est la justice. C'est ce qui est juste. Prenons le temps. Et si tes émotions, pour X raisons, se trouvent, à un moment donné, complètement exacerbées, agitées, alors, tranquillise tes émotions. Cherche le Seigneur. Cherche son conseil. Cherche sa pensée. Et sa pensée te sera communiquée. Et tu te situeras dans ce qui est juste à ses yeux. Le royaume des cieux, c'est d'abord la justice. C'est ce que Dieu pense, ce que Dieu aime, ce que Dieu préconise. C'est la volonté de Dieu. Et notre attachement prioritaire devrait nous relier inconditionnellement à la volonté de Dieu. Ma prière, c'est que nous fassions la volonté de Dieu. C'est que nous marchions dans la volonté de Dieu. Elle nous garantit l'approbation divine. On y reviendra. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a porté Dieu à choisir David ? Son profil raffiné, ses boucles blondes, sa prestance, sa démarche, le son de sa voix. Non, 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 Dieu le dit. J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Un homme qui accomplira toute ma volonté. Et c'est vrai que, à de très rares exceptions près, exceptions douloureuses, bien David portait un attachement prioritaire à la volonté de Dieu. Il se précipitait pas, il fonçait pas tête baissée. Avant d'initier quelques démarches, il consultait l'Éternel. Est-ce que je marcherai? Est-ce que je poursuivrai cette troupe d'Amalécites, hein, les jeunes, rappelez-vous, hein, samedi soir? Est-ce que tu me feras réussir? Et il attendait la réponse de Dieu. Vas-y. Tu vas les rattraper. Tu vas triompher. Je suis avec toi. Et là, David, convaincu de la volonté de Dieu et de son approbation, allait et au bout expérimentait une grande bénédiction, une grande victoire. C'est la justice. La Bible dit, tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Alors une huile de joie t'est accordée. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors voilà, pour la gestion de toutes les séquences délicates que nous aurons à traverser, soit au plan conjugal, soit au plan familial, soit au plan relationnel entre frères et sœurs, toutes les situations de crise, toutes les situations complexes, méfions-nous de nos sentiments. Laissons-les en arrière et réclamons la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, et nous serons sur le chemin de la bénédiction. Le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix. C'est la paix. C'est précieux la paix, hein. En commençant par la paix intérieure, la paix personnelle, et puis la paix à tous les échelons du quotidien, la paix dans le couple. C'est sûr que si dans le couple vous êtes en tension diplomatique, la moindre allumette menace l'explosion nucléaire à la maison, si la météo du couple est chargée. Vous voyez la carte de France, quelquefois on a des nuages noirs avec des éclairs. Quelquefois, c'est la météo qui peut traverser notre couple avec une charge d'énergie, d'électricité prête à boum, à se libérer. Hein. Alors il y a quelquefois la foudre descend et un jour je visitais une gentille sœur. Qui était dans la campagne de la Haute-Loire, et je connaissais bien sa propriété, et souvent je m'étais émerveillé devant un bel arbre, et ce jour-là, j'arrive, l'arbre, il n'y avait plus qu'une souche noire. J'ai dit, mais Jeannine, qu'est-ce qui est arrivé à l'arbre? Elle m'a dit, c'est un coup de foudre. Faut se méfier, hein, des coups de foudre. Hein. La foudre était tombée dessus, et ça avait calciné l'arbre, c'était vraiment, quel dommage, hein, quel dommage. Voilà, moi je ne veux pas finir carbonisé, hein. Je ne veux pas finir comme une vieille souche, hein. Mais j'aspire à la paix, la paix c'est précieux, la paix intérieure, la paix conjugale, la paix familiale, la paix ecclésiale, au sein de l'Église, la paix, je pense que vous partagerez cet avis, la paix est aussi précieuse que fragile. Elle est aussi précieuse que fragile. Elle nécessite donc de la part de chacun la mesure de sagesse, de spiritualité, l'expression des sentiments de Jésus-Christ, afin de contribuer. Il est dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, j'ai une part à faire. Et toi aussi. Hein? Et je vais pas attendre que tu fasses ta part pour faire la mienne. Moi, je vais faire la mienne en premier. Parce que si chacun attend que l'autre fasse sa part d'abord, je la ferai ensuite pour ce qui me concerne, ça ne correspond pas au fonctionnement du royaume des cieux. Le royaume des cieux, ça marche pas comme ça. Système des hommes, oui, ça marche comme ça. Mais la sagesse de Dieu ne convient pas, ne se retrouve pas dans cette démarche. Pour Dieu, lorsqu'il m'adresse sa parole, il me charge d'initier moi-même ce qu'il me réclame. De le faire sans arrière-pensée. Tu vois, je viens vers mon Matisse là, et je m'approche pour lui dire un mot gentil, mais en arrière-pensée, je me dis, attends, comment il va recevoir ma démarche? Je viens vers lui, à condition que lui aussi vienne vers moi quand même, hein, parce que je vais pas être le seul à faire... Non, c'est pas comme ça. Être artisan de paix. Être un facilitateur pour que la paix divine et merveilleuse se maintienne. Et cette paix qui est aujourd'hui n'est pas forcément garantie pour demain. Donc demain, je vais faire nécessaire, et après demain, et jusqu'à ce que le Seigneur revienne chercher son Église, notre préoccupation de chrétien spirituel doit nous amener à travailler dans ce sens, de contribuer à la paix et au règne de la paix divine au sein du peuple de Dieu. Qui va dire amen? Oui? D'accord? Amen? C'est le royaume des cieux, hein? Le royaume des cieux, c'est la justice, donc c'est la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, voilà, qui est priorisée, c'est la paix. C'est la paix, oh là là, la paix. La paix de Dieu. Il y a des textes sublimes qui la dépeignent. Écoutez ceci. Le Seigneur est proche. Alors, il est proche non seulement dans son imminent retour, mais il est proche de toi et de moi dans mon vécu quotidien. Il est proche. Alors, puisqu'il est proche, ne vous inquiétez de rien. Parce que le contraire de la paix, c'est quand même l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, il est proche. Combien de chrétiens exprime de flagrantes contradictions sans s'en apercevoir vraiment? Seigneur, merci parce que tu es là, et je m'inquiète, et je suis gangréné par des soucis. Mais s'il est là, lui, le prince de la paix, sa paix se déverse dans mon cœur, donc ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, amen, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, pas oublier, de rendre grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça vous intéresse comme programme? C'est le royaume des cieux. Et moi, je ne veux pas attendre d'entrer dans l'éternité pour en jouir. Mais le royaume des cieux, je veux le vivre ici-bas déjà. Amen. Je veux vivre sous la gouvernance des principes du royaume des cieux. Alléluia. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et ça, c'est un témoignage plus fort que les paroles que nous pourrions prononcer, le fait de dégager cette paix prodigieuse, que notre entourage verra d'une manière complètement interloquée, en sachant l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons, de constater la paix. Une paix de Dieu, une paix merveilleuse, c'est un témoignage merveilleux. Et c'est aussi une bénédiction incomparable que d'être là, rempli de la paix de Dieu. Cette paix de Dieu en toi te conférera de la stabilité. Parce que Dieu veut faire de nous des gens stables. Amen. La stabilité. la constance. La constance. Je ne veux pas être un chrétien alléluia le dimanche, oh là 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 le lundi. Mais je veux être constant, stable. Je veux permettre à la paix de Dieu de maintenir dans mon être intérieur cette tranquillité qui persiste malgré la violence des secousses. La stabilité, la constance, la fiabilité. Parce que Dieu veut faire de nous des personnes fiables. Oui ou non? Comment le Seigneur pourrait-il confier un mandat à l'un de ses enfants si ce dernier n'est pas fiable? Et si au premier incident, il y a une volte-face, il y a dans la Bible un Jean-Marc, mais ils ne sont pas tous comme ça, hein. Un Jean-Marc qui a été embarqué dans l'équipe missionnaire de Paul et Barnabas, n'est-ce pas? Et ce jeune homme, il était content, il a rencontré ce qu'il n'avait pas imaginé qu'on rencontre quand on veut servir le Seigneur, des épreuves, de l'hostilité, de l'opposition, des circonstances négatives. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu retourner chez maman. Et ça lui a fait peur et il manquait de fiabilité. Mais quand même, les Saintes Écritures nous permettent de comprendre que ce jeune homme, Dieu l'a formé, Dieu l'a encouragé, Barnabas l'a pris sous son aile, il l'a enseigné, il l'a réconforté, et puis il est devenu un jeune homme fiable, puisque plus tard, l'apôtre Paul le fait venir en disant « j'ai besoin de lui ». Hein? On a toujours besoin d'un Jean-Marc quelque part. Fais-le venir, j'ai besoin de lui. Ça nous donne de comprendre l'évolution, les progrès. Ma prière, c'est que vous et moi, nous fassions des progrès dans ce domaine de la stabilité. La Bible annonce, même si ce n'est pas très réjouissant, excusez-moi, mais c'est la vérité, que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps difficiles. Mais elle nous enseigne en même temps que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous gardera sereins, stables, fiables et persévérants. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un a ses émotions mises à mal? Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Que ton âme soit rassurée. Et que tu cesses de regarder avec frayeur l'amplitude de tes obstacles, de tes problèmes, mais que tu regardes au Dieu qui est ton Dieu et qui te donne sa paix. Et puis, la troisième valeur, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, la joie. N'est-il pas étonnant que la joie soit mentionnée dans les valeurs fondamentales du royaume des cieux? C'est là, il y a la joie de Dieu, bien sûr. C'est pas la joie excitée, c'est pas la joie artificielle préfabriquée, parce qu'on peut rire avec plein de décibels et avoir le cœur dans la déprime, hein. Donc non, c'est la joie, la vraie, la joie de l'Éternel, la joie de Dieu. La joie, chez le croyant et au sein du peuple de Dieu, fait partie des principes du royaume des cieux. La joie. C'est tressaillement intérieur. Gloire à Dieu, hein. Moi, j'imagine le psalmiste en train de tressaillir en lui lorsqu'il dit « Je suis dans la joie !» Quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel !» Ouh, ça bouillonne, là. Il y a des tressaillements. Vous savez comment ma mère a été baptisée dans le Saint-Esprit? Ça peut surprendre, mais c'est comme ça. C'est arrivé comme ça. C'était le samedi soir. Elle se préparait pour le culte. Elle était dans sa salle de bain. Elle était dans sa baignoire. Et elle chantait des cantiques dans sa baignoire le samedi soir. Moi, à l'autre côté, l'autre bout du couloir, je terminais vite quelques devoirs, parce que le dimanche, toute la journée, c'était à l'église, et j'entendais maman chanter, et couplet après couplet, le volume augmentait, où je me disais, elle va s'envoler, hein. Et à un moment donné, frères et sœurs, elle s'est mise à parler en langue. Et elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, dans sa baignoire. Son culte avait commencé la veille, hein, déjà. Gloire à Dieu, voyez-vous. C'est tressaillement, ce cœur qui vibre, ces entrailles qui sont émues, émerveillées, en reconsidérant, oh, ce Dieu merveilleux, ce Sauveur merveilleux, gloire à Dieu. C'est la joie de Dieu qui doit être en perpétuelle ébullition, si vous permettez le terme, hein. Ça doit tressaillir, c'est ce contentement débordant, c'est cette vie intérieure, agréable, intense. Eh bien, écoutez, ce programme-là, il est possible. Amen. C'est pas de la poésie. C'est pas de la fiction. C'est possible. Il t'est possible de vivre en toi avec ces tressaillements, cet émerveillement, cette joie de l'Éternel. Et il y aurait beaucoup de textes à citer, mais juste 3 ou 4 pour nous rappeler les conséquences merveilleuses de cette joie. Vous savez qu'il est écrit, un cœur joyeux est un bon remède. Amen. C'est même la santé pour les muscles, dit la Bible. Un cœur joyeux est un bon remède. Eh bien, par le Saint-Esprit qui t'a été donné, la joie de Dieu peut inonder, remplir ton âme. C'est miraculeux, mais nous sommes appelés à vivre le miracle de Dieu. Eh bien, ça sera la santé pour tes muscles. Tu seras au top pour les JO de Paris, bientôt. Hein? C'est la santé. Mais il y a des conséquences tellement bénéfiques, même au plan physique, que de vivre la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel, va dire Néhémie, sera votre force. Amen. La joie de l'Éternel sera votre force. Que le Seigneur soit béni. C'est cette motivation, ce rayonnement. Que Dieu soit béni et qu'il nous renouvelle sans cesse dans cette joie. La Bible nous montre, lorsque le fils prodigue est revenu chez son père, un aspect de la joie. Ils commencèrent à se réjouir. Amen. Mais la Bible ne dit rien sur la fin. Le commencement, oui, mais il n'y a pas de fin. Ça nous parle déjà de l'éternité, de la joie de l'Éternel. Gloire à Dieu. Jésus va dire, mais pour un seul pécheur qui se repent, dans le ciel, il y a plus de joie que pour 99 autres qui sont déjà là. Hein? Que le Seigneur soit béni. Et entre nous, je vais vous livrer un petit secret. Le chemin qui nous conduit à cette joie nous est donné par le psaume 34. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. L'invocation du Seigneur. Même s'il y a devant nous des montagnes de problèmes, le fait de tourner nos yeux vers notre Dieu, de l'invoquer et de nous en remettre à sa fidélité et à ses promesses, immédiatement un miracle déjà se produit. Un premier miracle, c'est que nous sommes rayonnants de joie. Le problème n'est pas encore réglé, mais nous savons qu'il va l'être. Et il y a une joie divine et céleste qui vient illuminer notre visage, que Dieu soit béni. Je termine ce bref message avec cette pensée que j'ai mentionné rapidement dans mon introduction, celui qui sert Christ de cette manière. Et je disais qu'il peut y avoir d'autres manières, elles sont toutes des mauvaises manières, il faut les éviter, il n'y a qu'une seule bonne et vraie manière, c'est cette manière. Si je sers mon Christ avec la paix de Dieu, la justice du Seigneur, la joie de l'Éternel, sans cesse renouvelée en moi, alors ça va donner une qualité, une saveur à mon service. Gloire à Dieu, hein ? Vous savez que dans le Lévitique, il y avait pas mal de recommandations, des consignes pour les offrandes, notamment une où Dieu dira « Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. » Une offrande sans saveur. Dieu a donné cette recommandation. Eh bien, je prie pour que mon service pour mon Sauveur soit sans cesse renouvelé dans sa saveur. Que je puisse le servir de cette manière-là. Et je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible. Car, encore une fois, l'assistance du Saint-Esprit dans ma vie le rend possible. Je ne dis pas que parfois des événements très indésirables ne viendront pas perturber notre cœur. Mais j'affirme que malgré ces événements-là, le Saint-Esprit en nous va déverser cette paix, cette joie, cette justice divine et nous rendre capables de servir Christ de cette manière-là. Je vous fais une petite, un petit partage personnel. Je préparais, il y a bien des années en arrière, je préparais la prédication du dimanche qui allait suivre, et au début de la semaine, dès le lundi, Dieu a clairement posé dans mon cœur, justement, ce verset du livre de Néhémie, « La joie de l'Éternel sera votre force ». Et j'ai compris que, pour dimanche, c'est ce message que je devais prêcher à l'Église, dans le cours de la semaine. Terrible nouvelle. Papa décède. Un infarctus. On m'apprend son décès. Je peux rendre ce témoignage qu'en dépit de la vive douleur que tout le monde comprendra, ce message n'a pas cessé de travailler mon cœur et par l'assistance du Saint-Esprit. Parce que c'est pas possible sans cette assistance. Le dimanche, j'ai pu apporter ce message. La joie de l'Éternel sera votre force.